Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Quelqu'un acclame encore le nom du Seigneur en lui disant bienvenue. Quelqu'un acclame le nom. Thank you, Holy Spirit. Merci. Merci. Et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, Église protestante évangélique, bienvenue ce matin. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Sa splendeur sera bientôt manifestée. Son règne, son éclat sera bientôt visible dans ce pays et partout ailleurs sur la terre. Son nom sera célébré parmi toutes les nations et tous les peuples, même ceux qui ne le connaîtront pas, le célébreront, le béniront, l'exalteront, le loueront. Ils béniront la splendeur de son nom, la beauté de sa majesté. Seigneur notre Père, nous nous soumettons à toi ce matin. Merci. Merci, Père. Tu sais qu'en nous, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Tu sais qu'en nous, il n'y a pas de capacité. Nous reconnaissons que notre capacité vient de toi seul. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous te reconnaissons, nous t'honorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci de nous faire grâce encore pour ce deuxième culte. Merci de nous faire grâce pour cette journée. Inspire, vraiment inspire, inspire. Prends le contrôle de tout mon être, inspire. Inspire, parle, lance ta parole. Rafraîchis, renouvelle, restaure, enseigne. Éduque, vivifie, challenge, fortifie, étire. Étends-nous par la puissance du Saint-Esprit, Père. Parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs, nous nous disposons pour toi. Que toutes les formes de distraction soient bannies de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu règne et que ta suprématie soit manifestée ce matin. Esprit du Dieu vivant, tu es bienvenu, tu es bienvenu. Je te reçois, je te reconnais, je te célèbre. Mon bien-aimé, mon trésor, mon ami, mon associé, mon partenaire, mon maître, mon souverain, mon Seigneur, je te remercie. Oh God, thank you, thank you, thank you. Esprit du Dieu vivant. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, tu es bienvenu. Saint-Esprit, je te reçois. Je te reconnais. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, je te célèbre, je t'adore et je t'exalte, mon Seigneur, mon Dieu, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, merci, merci. Ce matin, nous continuons notre thème que nous enseignons maintenant depuis 2-3 semaines, depuis le début de l'année. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Je crois qu'on vous a fait une annonce. D'abord, je voudrais dire, on vous a fait une annonce tout à l'heure. Hier soir, à la maison, j'étais inspiré. Et la semaine prochaine, nous aurons effectivement un atelier. Et le thème de l'atelier, c'est si on parlait sexe. Quelqu'un dit, on va parler du sexe à l'église. Dis-moi, on va parler du sexe à l'église. Si vous pensez que je ne suis pas à l'aise, je suis détendu. Je suis même très à l'aise dans ce domaine. Tout ce que Dieu a créé est bon. Pourvu qu'on sache comment s'en servir. Et donc la semaine prochaine, âme extrêmement sensible, s'abstenir. Vous aurez des nouvelles. Prenez des nouvelles par personne interposée. Le but, c'est que nous allons nous asseoir là le vendredi, samedi prochain, de 14h à 17h, et puis nous allons parler de cœur à cœur. Ce ne sera pas une prédication, ça sera un échange, ça sera un échange interactif. Vous allez venir avec des questions, et nous allons échanger sur le sexe. Quelqu'un me dit le sexe. Quelqu'un me dit le sexe. Tu vois, rien que quand on dit le sexe, c'est pour toi là qu'on doit parler. En toi qui fais la pagaille avec ton sexe, nous avons dit la semaine dernière que ton sexe là, il faut l'offrir à Dieu. Ton sexe là, il faut donner ça à Jésus. Il dit Seigneur, prends mon sexe. Pas seulement prends mon cœur, Seigneur, prends mon sang. Prends mon sexe, Seigneur, prends mon sexe. Samedi prochain là, on va parler de cœur à cœur. Comme le couteau, on va s'aiguiser les uns les autres. Quelqu'un me dit amen. Oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que la Satan se sert du sexe pour créer des liens et pour détruire la vie de multitudes. Et j'ai déjà dit, et je suis vraiment de mon cœur meurtri quand je vois les dégâts que le sexe crée, que la mauvaise utilisation ou la mauvaise compréhension du sexe crée. Si je ne dois pas être populaire parce qu'on parle du sexe, je préfère être totalement impopulaire et être agréable à Dieu que d'être populaire ou être pasteur d'une église où les gens ne comprennent pas l'importance du sexe. Quelqu'un me dit le sexe. Voilà pourquoi nous allons faire un atelier. Et peut-être qu'il en faudra sûrement un deuxième. Et puis après, on fera un atelier avec les hommes. Quelqu'un me dit les hommes. Hein, les femmes, elles ont apparemment leur atelier ou leur soirée. Là. Bon, ça, c'est des trucs des femmes. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on veut parler entre hommes. Là. Parce que ton sexe, là, il faut qu'on le gère ensemble. Un homme me dit amen. Oh, vous savez que nous, on n'a pas... Oh, il n'y a pas de sujet tabou ici. Quelqu'un me dit amen. On parle des choses de la vie de tous les jours. Des choses qui détruisent et qui dévastent et qui créent des dégâts terribles dans la vie des gens. Terribles. Tout ça parce que tu n'as pas compris l'importance du sexe. Tout ce que Dieu fait est bon, mais il faut savoir comment s'en servir. Et je tiens à rendre grâce à Dieu de ce que si je me permets d'en parler, c'est parce que je suis qualifié pour en parler. Je pense qu'avec le temps, Dieu m'a qualifié pour en parler. Vous savez, à ICC, vous n'avez pas un pasteur qui dit des choses qui ne vit pas. J'enseigne ce que je vis et je vis ce que j'enseigne. Voilà. Si tu ne me crois pas, j'en ai rien à faire. Je vis ce que j'enseigne. Ce qu'on enseigne ici, c'est la vérité. Il n'y a pas de détour. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes détours? Je n'ai rien à faire. Il y en a qui passent leur temps à m'accuser. Je m'en moque. Ici, on dit la parole de Dieu telle qu'elle est, telle qu'elle doit être enseignée. Mais s'il y a quelqu'un que ça dérange, désolé, c'est quand même la parole de Dieu. Et elle est infaillible. Elle s'accomplira toujours de toute manière. Amen. Donc, je crois qu'on va être un peu débordé samedi prochain. Parce qu'on va parler de sexe. Témoignage sur témoignage. On va s'encourager, femme avec homme. Je ne sais pas comment ça va être, mais je sais que ça va être intéressant parce qu'il faut dire beaucoup de choses. Il y en a qui ne savent pas comment ça marche, ils mettent dans des pièges, ils ouvrent des portes, alors qu'il ne faut pas ouvrir des portes. Ils ne savent pas comment se préserver, comment faire pour se prémunir. La Bible dit, quelqu'un peut-il mettre du feu dans sa poche sans que ses vêtements ne brûlent? Toi, tu ouvres des portes, puis tu t'étonnes après que tes membres là commencent à faire des choses bizarres. Et puis tu dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est normal, tu as ouvert la porte, pourquoi tu as ouvert la porte? On va parler de cœur à cœur. Pas de prédication, hein? Échange. Dis-moi amen. Amen. Il y a que ton voisin qui est là s'est décoincé. Alléluia. Donc, j'insiste, âme très sensible, vraiment calmez-vous seulement. Ce n'est pas la peine de venir là si tu dis, oh là là, Seigneur, après, qu'est-ce que je... tu vas aller bien. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes donc à l'école du Saint-Esprit. Nous continuons sur le thème qui est le Saint-Esprit. Dès le commencement, nous avons vu ensemble que le principe de la Trinité divine apparaît. Nous avons vu que dès le commencement, trois personnes distinctes se précisent, chacune étant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La première personne qui est mentionnée dans les Écritures, dans le livre de Genèse, chapitre 1, la première personne qui est mentionnée de manière individuelle est appelée l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit l'Esprit de Dieu? Non, je ne vous entends pas. Dites-moi l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu qu'en parcourant les Écritures de Genèse à Apocalypse, en parcourant les Écritures, on voit bien clairement qu'il existe une unicité et en même temps une différence, une légère différence, en même temps une unicité entre Dieu et l'Esprit de Dieu. Nous avons dit que la venue de l'Esprit de Dieu sur la terre avait été annoncée depuis fort longtemps, depuis plus de 700, 800, 900 ans avant Jésus-Christ. La venue sur la terre de l'Esprit de Dieu avait été annoncée. Il y a eu plusieurs phases sur la terre. Il y a eu d'abord la saison ou les jours de ce qu'on appelle le Père, où Dieu s'est manifesté sur la terre à travers les prophètes, à travers les rois, à travers les sacrificateurs ou encore les prêtres. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les jours du Seigneur, les jours de Jésus le Christ, lorsque Dieu s'est incarné, lorsque le Christ s'est incarné
dans un corps de terre et ça a duré 33 ans et demi. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les jours de l'esprit qui avaient déjà été annoncés. Les jours de l'esprit. Quelqu'un me dit les jours de l'esprit. Et nous avons vu dans le livre de Ézéchiel au chapitre 36, dans Ézéchiel chapitre 36, nous avons vu qu'il fut un temps où Dieu, longtemps avant, avait prophétisé les jours de l'esprit. Et c'était une époque particulièrement douloureuse pour Dieu parce que le nom du Seigneur était insulté, le nom de Dieu était calomnié, tant par les païens, donc c'est-à-dire les incroyants, que par son peuple. Et à cause du peuple de Dieu, nous avons vu la semaine dernière que le nom de Dieu, le nom du Seigneur était calomnié, exactement encore comme aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, ils avaient une excuse, parce qu'à l'époque, Dieu disait que mon nom est calomnié à cause de vous, mon nom est souillé, mon nom n'est pas respecté. Mon nom est bafoué, mon nom est insulté à cause de vous, mon peuple. Mais voici ce que je vais faire. Dieu promettait qu'il allait faire quelque chose de nouveau sur la terre. Dans les temps à venir, plus de 300 ans, 400, puis pardon, plus de 800 ans, 900 ans, Dieu promettait déjà qu'il allait faire en sorte que son nom allait être glorifié, que son nom allait être honoré, que son nom allait être sanctifié sur la terre des vivants. Dieu faisait une promesse. Il disait, les temps viennent, les jours viennent où je vais faire une œuvre nouvelle sur la terre. Et Dieu disait, et comment est-ce que Dieu allait faire cette œuvre nouvelle sur la terre? Comment est-ce que Dieu allait faire pour que son nom soit craint, son nom soit aimé, son nom soit sanctifié, mis à part, respecté, considéré, valorisé? Comment est-ce que Dieu allait s'y prendre? Dieu donne une réponse, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en l'homme. Je mettrai mon esprit dans les êtres humains. Mon esprit ne sera pas seulement sur quelques personnes choisies comme les rois, les sacrificateurs ou les prophètes. Mais mon esprit sera répandu sur tout le monde, sur toute chair, sur tout ce qui croit, je répandrai de mon esprit. Et il a dit cette prophétie longtemps avant l'arrivée de Jésus-Christ, longtemps, dans Ézéchiel 36, juste une petite portion, dans 36 verset 25, où il disait, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Au verset 27, Dieu disait, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai mon esprit en vous. Longtemps avant, Dieu faisait déjà la promesse, je mettrai mon esprit en vous. Et nous avons donc vu comment la réponse de Dieu au problème de l'humanité, au problème que les hommes étaient en train de subir. Le problème numéro un de Dieu, c'est le péché. Quelqu'un me dit le péché. Quelqu'un me dit le péché. Le péché. Voilà pourquoi la semaine dernière, nous avons parlé du péché. Parce que nous parlons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas et ne pourra jamais habiter dans un temple qui est souillé. L'Esprit de Dieu ne se mouvoit pas dans un temple qui est sale. Tout comme toi, bon, ça dépend. Il y en a qui acceptent la saleté profonde. Mais logique, un être humain normal ne peut pas habiter là où il y a des excréments. Là où il y a des excréments, tu ne peux pas habiter normalement, en temps normal. Dis-moi, mais j'ai bien dit normalement. Nous avons dit de la même manière que lorsque le Saint-Esprit doit venir quelque part, lorsqu'un avion doit atterrir, sur une piste d'atterrissage, qu'est-ce qu'on fait? On balise la piste d'atterrissage, on nettoie la piste pour être sûr que l'avion va se poser sans problème. Un avion n'atterrit pas dans le désordre. Lorsque Dieu doit atterrir, il doit d'abord atterrir. Il faut d'abord qu'on sanctifie le lieu. Il faut qu'on purifie le lieu. Si on n'a pas purifié le milieu, Dieu ne peut pas atterrir. Et l'Esprit de Dieu est sur le point d'atterrir dans ta vie comme jamais auparavant. Et pour ça, il doit d'abord faire du balayage, du nettoyage. Et la première des choses que Dieu attaque, qui nettoie, c'est le péché. Quelqu'un me dit le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est la violation de la parole de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est là, c'est-à-dire la séparation. Écoutez, mon frère, ma soeur, cet exercice que nous avons fait cette semaine est extrêmement important et nous allons continuer à le faire. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que la récompense, la conséquence du péché, c'est la mort. Mort, c'est Thanatos en grec, c'est-à-dire la séparation. Satan sait, Satan était là sur la terre avant que tu ne naisses. Il connaît la parole de Dieu mieux que toi. Il connaît les lois de Dieu mieux que toi. Quelqu'un me dit amen. Et quand Dieu a mis Satan, et quand Dieu a créé Adam et Ève sur la terre, Satan savait qu'il ne pouvait pas aller de manière frontale combattre Adam et Ève. Parce que Dieu leur avait donné la domination, le gouvernement, la souveraineté de tout le monde visible. Ils étaient les maîtres, les rois de la terre, les rois du monde. Il ne pouvait pas aller en frontière, il allait perdre. Voilà pourquoi il a utilisé la ruse. C'est son arme secrète, son arme préférée, le mensonge et la tromperie. C'est un spécialiste du mensonge. Le but de Satan quand il est rentré dans le jardin d'Éden, mon frère, ma soeur, c'était de faire tomber l'homme, c'était de créer la séparation entre Dieu et l'homme. Satan sait que s'il arrive à te faire pécher, c'est-à-dire s'il arrive à te séparer de Dieu, alors tu es comestible, tu es mangeable et tu es destructible. Sa stratégie numéro un en ce qui concerne ta vie repose d'abord sur le péché, c'est-à-dire te pousser à pécher. Pourquoi? Parce que quand tu pèches, tu te sépares de Dieu. Dieu se retire. Quelqu'un me dit Dieu se retire. Dieu se retire quand tu pèches. Et quand il se retire, il te livre à toi. Et là, il te dévaste. Voilà pourquoi on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de la sainteté, de la pureté. Quelqu'un me dit amen. Dieu n'habite pas dans une maison qui est souillée, qui est sale. Il faut la pureté, il faut la sainteté. Parce que le Saint-Esprit est saint. On va revenir dessus. Je ne vous lâcherai pas avec cette affaire. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, il va insister encore. Et quand j'insiste, il y a quelqu'un qui s'est toujours mal à l'aise. Mais le pasteur, pourquoi il parle de ça? Parce que je dois en parler. La preuve, c'est que tu n'es pas encore à l'aise. Jusqu'à ce que tu sois cool, détendu quand le pasteur parle de ces choses. Dis-moi amen. Dieu disait que le temps viendrait où il mettrait son esprit en l'homme, en l'être humain. Et quand il mettrait son esprit, l'homme qui était incapable d'obéir à Dieu à cause du péché sera désormais capable d'obéir à Dieu. L'homme qui était incapable d'obéir à Dieu serait maintenant capable d'obéir à Dieu. Il serait capable d'aimer Dieu, capable de suivre Dieu, capable de faire plaisir à Dieu. Dis-moi, c'est possible. Non, je n'ai pas entendu. Dis-moi, c'est possible. Il disait, lorsque son esprit viendra en toi, son esprit te rendra capable de marcher dans la pureté et dans la sainteté. Son esprit, pas toi-même, le Saint-Esprit en toi te rendra capable de marcher dans la sainteté et dans la pureté. Il le disait déjà dans les prophéties du prophète Ésaïe. Soit il ment, soit il dit la vérité. Dis-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit te rendra capable. C'est ce qu'il disait déjà hier. Capable de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Alors toi, tu trouves encore des excuses au péché. Ce n'est pas ma faute, je n'ai pas le choix. Écoute, on a toujours le choix. On a toujours et on aura toujours le choix. Dieu t'a donné un pouvoir que personne ne pourra t'enlever. C'est toi qui abdique, qui démissionne, qui dit « Prends mon pouvoir, choisis à ma place. » C'est toi, personne ne le fait à ta place. Je vous ai montré, je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit la dernière fois comment au premier siècle, les 100 premières années après Jésus, comment les chrétiens étaient massacrés. 60 millions de chrétiens ont été massacrés, assassinés par Néron, l'empereur romain, dans le Colisée de Rome, qui est encore là aujourd'hui. Comment les femmes avec des enfants étaient dévorées par les lions parce qu'on leur disait « Renoncez à ce Jésus ou bien mourrez !» Elles disaient « Nous mourons !» Nous faisons allégeance à l'agneau de Dieu. C'est un choix, une décision. Ce n'était pas, je ne sais pas, mais ils vont m'abandonner, ils vont me tuer si je donne ma vie. Ils faisaient allégeance à l'agneau. Ils avaient le Saint-Esprit que toi tu as reçu. Et ils avaient compris l'importance de la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit. Ils avaient compris que ça ne dépendait pas d'eux-mêmes, ça dépendait du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Amen. Mais toi tu as beaucoup d'excuses aujourd'hui. À la base de tes excuses, il y a d'abord l'ignorance ou le manque de crainte de Dieu. Le manque de crainte de Dieu est un de tes problèmes principaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourquoi le pasteur est encore dessus? Parce que je dois y rester. Le péché a comme conséquence la mort, la séparation. Satan le sait. Voilà pourquoi il pousse chaque croyant à pécher. Son but, c'est de te pousser à pécher. Surveille tes actes. Surveille tes paroles. Surveille tes pensées. Objectif, te pousser à pécher. Pourquoi? Parce que dès que tu as péché, tu es vulnérable. Dieu dit, ma réponse, c'est le Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que le sang de Jésus n'avait pas été versé. Parce qu'il fallait que l'espèce humaine soit purifiée par le sang de Dieu lui-même. Alors Jésus est venu, il a versé le sang. Et quand Jésus a versé le sang, Jésus est reparti. Il a dit, je vous envoie maintenant l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute la terre. Ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Tu peux vivre dans la pureté, dans la sainteté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Sa vie coule en toi. Naturellement, tu deviens saint. Oh, dis-moi amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas faire contre ta volonté. Il faut que tu soumettes ta volonté au Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis, tu prends ton sexe, tu dis, Seigneur, prends mon sexe. Que mon sexe te glorifie. Que mon sexe te glorifie. Prie comme ça. Que mon sexe, Seigneur, te glorifie. Seigneur, oui, prie comme ça. Quelqu'un me dit amen.
Amen.
Le Saint-Esprit venant en toi te rend capable de marcher dans la pureté. Mon frère, j'ai compris avec le temps. Vous savez, faites attention. Tant que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, ne lui demande pas l'impossible. Il peut avoir une bonne éducation, une bonne moralité, de bonnes valeurs. Il aime sa femme. Tôt ou tard, il est capable de la tromper. Elle aime son mari, elle est fidèle, elle a toujours été. Elle, c'est vraiment une femme bien, une femme de haut rang, de distinction, tu vois. Elle a une bonne éducation, puis sa mère l'a éduquée. Mais le jour où elle laisse une petite porte ouverte, un esprit mauvais rentre, c'est fini. La femme qui était pour elle bien commence à dire, non, je ne sais pas ce qui m'arrive, je commence à avoir des sensations bizarres. Mon frère, quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, tu ne peux pas mettre ta main dessus. Celui qui n'a pas encore, celui en qui le Dieu des cieux n'est pas venu habiter, frère, ne te demande pas l'impossible. Ce n'est pas l'éducation qui te rend capable, c'est le Saint-Esprit qui te rend capable de marcher dans la pureté. Ce n'est pas la bonne éducation. Dis-moi un bon amen.
Amen.
Voilà pourquoi tu vois des gens qui sont bien éduqués, qui sont même très instruits, mais qui font des choses les plus abjectes, les plus horribles. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas Dieu, tu n'as rien, frère. Quand tu n'as pas Dieu, tu es mangeable. Tu es comme un sandwich pour le diable. Il te mange, il te mange dans tous les sens. Tu dis, au secours, il te mange parce qu'il a le droit légal de te bouffer, de te détruire. Il a le droit légal. Qui lui a donné le droit légal? Toi! C'est avec ta permission que Satan te détruit. Toujours avec ta permission. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je mettrai mon esprit dans les jours de l'esprit. Je mettrai mon esprit dans les hommes, dans les femmes, dans les enfants. Et ils seront capables de marcher dans la pureté, dans la sainteté, non pas dans la souillure. Je mettrai mon esprit et leur condition de vie changera. Je mettrai mon esprit en eux et leur vie seront reconstruites. Ils seront restaurés. Ceux qu'on avait dit endommagés, cassés, méprisés, brusquement, soudainement, parce que mon esprit viendra en eux. Oh, ils vont vivre ce qu'on appelle une métamorphose intérieure. Et ça se manifestera à l'extérieur. Tôt ou tard, on verra que quelque chose s'est passé en toi. Ça, c'était la promesse de l'esprit. Mais toi, tu dis amen, là, il y a des gens qui... C'est pas clair! Parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Ou encore, tu as entendu, mais tu n'acceptes pas. Parce que tu dis, j'ai pas le choix. Si, tu as le choix. Personne ne peut faire le choix à ta place. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? Mais alors? Oh, je n'ai pas le choix. Qui t'a dit que tu n'as pas le choix? On a toujours le choix. Oui, c'est ça que tu n'aimes pas entendre. C'est parce que tu n'as pas envie de dire amen. Je comprends. Je comprends. Quelqu'un me dit amen. Il faut arrêter de... On ne se moque pas de Dieu. On peut tromper soi-même. Et c'est ce que beaucoup font. Tu te séduis, tu te mens à toi-même. Mais on ne ment pas à Dieu. Seigneur, tu sais, il m'a dit que si vraiment j'ai 4 enfants, si je ne couche pas avec lui, mes enfants ne pourront pas manger. Seigneur, il le fait. Seigneur, couchant seulement alors. Tu as vu? Pourquoi tu n'es pas morte? À cause de mes enfants. T'inquiète pas, Dieu va s'occuper de meurs. Si c'est tout ce qu'il te faut, alors meurs. Tu peux accepter de faire la volonté. C'est ta volonté. C'est toi qui choisis de faire la volonté de Dieu. Et quand tu vois que c'est trop dur, que tu n'arrives pas, alors tu dis, Seigneur, je m'attache à toi. Est-ce que tu sais c'est quoi s'attacher à Dieu dans les jours de la détresse? C'est ce que c'est quand tu s'attaches à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est pas, je m'attache à toi. Oh Seigneur, je suis parti, je ne peux plus. Je m'attache à... Ah bon? Tu as vu ça où? Frère, on s'attache à Dieu comme ça là. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Parlez. Tu as promis de me soutenir. Ta fidélité dure à toujours. On dit laisse-la à ta fidélité. On va soulever tes pieds même pas. Hein, ta fille. Vous avez vu quelqu'un qui est en train de tirer et puis on tire même par les pieds. Ta fidélité durera toujours. Le péché te dit, ta fidélité durera toujours. Quand Dieu voit, Michael, Gabriel, oui, ma fille à mon nom, envoyez au-delà de ce qu'elle demande, de ce qu'elle pense, par ma puissance qui agit en elle. Dis-moi amen. Mais dans certains cas, c'était juste un test. Dieu voulait voir si tu étais capable de t'attacher à lui avec un cœur sincère. On te dit, je t'aime Seigneur, mais je dois coucher avec le monsieur. Il dit, non, on a toujours le choix. Joseph a laissé son manteau dans la maison de Potiphar. Allez, la femme. La femme, hey, toi, petit, toi là, tu es trop beau. Non, maman. Petit, gaga, maman. Petit, tu couches avec moi. Et Joseph a dit, maman, pardon. Couche avec moi. Lundi, à l'obi, non. Mardi, non. Dimanche, elle a dit, petit, toi là, ça fait longtemps. La maison est vide. Tu vas coucher avec moi aujourd'hui. Sinon, je te vis. Il dit, maman, prenez. Il a fui. Après, la dame a pris le manteau. Elle a gardé le manteau. Et dit, il m'a violé. Parce qu'il a voulu faire le bien, il s'est retrouvé en prison. Mais quelques années plus tard, de la prison, il s'est retrouvé au palais. La fidélité à Dieu paye toujours. Tôt ou tard. L'infidélité à Dieu paye aussi toujours, tôt ou tard. Regarde-moi bien. Fais tes trucs en secret. Sous-marin. Hein? L'infidélité. Regarde, tu es en train de rire là. Bon, là, je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin. Regarde, il y en a qui sont en train de... Regarde-moi bien. C'est ça, ton visage est tout coincé là. C'est de toi qu'on parle, mon frère. Dis à ton voisin, il parle de toi. Voilà. Dis à ton voisin, il parle de toi. C'est pour ça que tu n'as pas envie de sourire. Hein? Quelqu'un me dit amen. De ce côté-là, franchement, vous ne mourrez pas. Non, il y a des domaines dans lesquels vous ne mourrez pas. Je sais de quoi je parle. Christ vit en moi. Si Christ m'a rendu capable de vivre, c'est la vie que je mène aujourd'hui, croyez-moi. S'il a fait en moi, il peut le faire en tout le monde. Oh non, vraiment, je vous assure. S'il a fait en moi, il peut le faire. C'est pour ça que je n'accepte aucune excuse. Les excuses viennent de ton manque de crainte de Dieu. Alors tu dois plutôt commencer à chercher à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vient de la parole de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tout devient possible. Même ce que tu n'étais pas capable de faire, frère, il y a des grâces qui viennent parce que l'Esprit est là. Il y a une force qui est là parce que l'Esprit est là. Tant qu'il n'est pas là, tu dis, Jean-Luc, Jeannette, je te promets fidélité pour le meilleur et pour le pire. Moi aussi, Jeannette. Moi aussi, Jean-Luc, je te promets fidélité de conjugale. Pour le meilleur, plus jamais je te tromperai. Moi aussi, ma douce, plus jamais je te tromperai. Et un an plus tard, il ne retrompe pas encore. Jeannette, je te demande pardon. Jean-Luc, moi aussi, je t'ai trompé, je te demande pardon. Toi aussi, moi aussi, nous nous demandons pardon. Un an plus tard, il recommence. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas en nous. Mais quand l'Esprit vient habiter en toi, quand tu vois le péché, tu dis péché, excuse-moi, toi tu es une loi. Mais il y a une autre moi, il y a une loi en moi qu'on appelle la loi de l'Esprit de vie. C'est-à-dire que la vie de Dieu me consume. Et c'est bizarre, mais je n'aime pas le péché. Je n'arrive pas à aimer le péché parce que la vie de Dieu est en moi. Et quand tu es cool en moi, frère, c'est naturellement que je déteste le péché. Et quand je sens que c'est tendu, alors je crie à Dieu. Comme disait le pasteur Yvon à un frère, il disait, si ta femme n'est pas là, tu sens que tu brûles un peu. Ça arrive, hein, tu brûles un peu. Et il dit, que tes fleuves d'eau vive se déversent dans mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Crie à l'aide. Jésus. Et frère, il y a des moments où il faut savoir crier à l'Éternel. Hein. À un moment, c'est tu sens ton cœur étendu. Saint-Esprit. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, je n'ai pas commencé le message, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'écoute là, à ce deuxième culte là, qui a encore besoin de recevoir la même parole. Et je ne me lasserai pas tant que l'Esprit poussera. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dit, je viens bientôt. Et je veux atterrir. Mais il faut me préparer le terrain. Dieu n'atterrit pas dans un temple qui est sale. Voilà pourquoi il t'emmène à la repentance. Dis-moi amen.
Amen.
Il t'emmène à reconnaître tes péchés, à les délaisser. Dis-moi amen.
Amen.
C'est pour ton bien. Parce que la fidélité à Dieu paye. Et l'infidélité aussi, la souillure paye. Et Dieu dit, ce que je veux pour toi, c'est des projets de paix et non de malheur. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire quand je suis en toi. Mais il faut céder, il faut me donner ta volonté. Donne-moi ton cœur. Dis-moi, prends mon sexe. Prends mon sexe. Si ton sexe te fait chuter, dis-le Seigneur, prends mon sexe. Quelqu'un me dit amen. Samedi, nous serons là, nous allons parler du sexe. Retour, on appelle ça échange d'expérience. Ce n'est pas sur l'expérience, comment ça se passe au lit. Non, 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 non. C'est comment on fait pour tenir. Comment on fait pour tenir? En fonction des cas de figure. Quelqu'un me dit amen. Je continue mon message. Le Seigneur nous a montré, nous avons vu la semaine dernière, que Dieu a ce qu'on appelle une volonté parfaite. Et dans le livre de Luc chapitre 11, je ne vais pas le relire, verset 11, Dieu nous a dit, le principe général que nous devons retenir, c'est que Dieu nous a dit que sur la terre, que Dieu voulait depuis longtemps donner son esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, aux êtres humains. Parce que Dieu, regardant la terre, il voit que les êtres humains cherchent l'argent. Les êtres humains cherchent les enfants, cherchent les femmes, les mariages, les concubins, le travail, toutes sortes de choses. Dieu dit, il y a un don, quelqu'un me dit un don. Il y a un cadeau, quelqu'un me dit un cadeau. Que Dieu veut faire, un cadeau excellent, plus excellent que tous les cadeaux, plus excellent que tous les dons, que Dieu veut donner aux êtres humains. Et Jésus disait, il est temps pour le Père de donner le don le plus excellent, le plus privilégié, le plus merveilleux à ceux qui lui demandent. Et le don que Dieu donne, c'est Dieu lui-même. Oh, dis-moi amen.
Amen.
C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le plus excellent, le plus merveilleux, le plus doux de tous les cadeaux que Dieu peut te donner. Voilà pourquoi, si tu vas devant Dieu, Seigneur, donne-moi ce que tu as de plus précieux. Il te dit, ce que je suis de plus précieux, c'est moi-même, c'est mon esprit. Déjà, la bénédiction, la véritable et la première, la vraie bénédiction, c'est Dieu lui-même. Oh, quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le travail que tu cherches, ce n'est pas l'argent que tu cherches, c'est Dieu lui-même. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Imagine, mon frère, tu arrives à conquérir le cœur du chef de l'État le plus puissant de toute la planète. Et il te dit, ma fille, mon fils, ma femme, mon mari, donne-moi tout ce que tu veux, je te donne. Je suis l'homme le plus puissant au monde. Il va donner. Pourquoi? Parce que tu as conquis son cœur. Voilà pourquoi le nerf de la guerre, c'est le cœur. Toi, tu cherches tout. Tu cherches l'argent, tu cherches les femmes, tu cherches les maisons. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche d'abord. Et toutes choses vous seront données. Mais toi, tu cherches beaucoup de choses pour rien. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, tu fais longtemps que tu cherches, tu n'es toujours pas satisfait. Tu cherchais mari, tu n'es pas satisfait. Tu cherchais femme, tu n'es pas encore satisfait. Quelqu'un me dit aïe. Parce que le bonheur vient de la présence de Dieu lui-même. Et la réponse de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Dis-moi l'Esprit de Dieu. Les dernières paroles, nous avons vu la semaine dernière, avant son ascension, les dernières paroles de Jésus ont été la promesse de l'arrivée, de l'entrée en scène sur la terre, dans le monde visible, de la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit. Dans Actes 1, verset 3, nous avons vu, il est écrit, en parlant de Jésus, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernaient, pas la religion, jamais, mais concernaient le royaume de Dieu. » Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, le précurseur, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand Dieu est sur le point de venir, il envoie les précurseurs préparer le terrain. Lorsque le chef de l'État doit se déplacer quelque part, on envoie ce qu'on appelle des précurseurs. Pourquoi ? Pour préparer l'arrivée du chef. Quelqu'un me dit amen. C'est obligatoire, c'est systématique. Lorsque Dieu doit arriver sur la scène, Dieu prépare le terrain. Il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les chemins du Seigneur. Il disait, repentez-vous. Jean est venu baptiser d'eau. Jean est venu annoncer le baptême de la repentance. Il est venu annoncer la repentance. Autrement dit, changez vos cœurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, Jean ? Dieu arrive. Ah bon ? Ah bon ? Oui, Dieu arrive. Dieu va visiter la terre. Changez vos cœurs. Arrêtez de commettre le mal. Arrêtez l'adultère. Arrêtez la fornication. Arrêtez le mensonge. Arrêtez le péché. Mais frère, on a toujours fait comme ça, nous. Arrêtez ! Mais nous, on connaît que ça. Arrête ! Mais dans ma famille, arrête ! Arrête ! Pourquoi ? Dieu arrive ! Et quand Dieu arrive, c'est quand Dieu arrive, il se produit deux choses. S'il y a le péché, juste le péché, tu meurs à cause du péché. S'il y a la pureté, la gloire descend. Parce qu'attention, quand Dieu arrive, c'est ça que vous ne comprenez pas. Quand Dieu arrive, il se produit deux choses. Élévation, gloire, restauration, reconstruction, distinction, jugement, mort. Voilà pourquoi Dieu dit, Jean-Baptiste dit, les gars, Dieu arrive. Repentez-vous. Que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Toi, si tu volais, arrête de voler. Si tu avais deux femmes, garde sans une. Tu couchais, arrête de coucher. Tu te masturbes, arrête de masturbation. Arrête ça ! Et là, je parle à quelqu'un. Là. Arrête ! Dis à ton voisin, on dirait qu'il parle de toi là. Ne regarde pas moi, regarde ton voisin. Non, je prends mon mouchoir, je jette ça au hasard. Jette mon mouchoir sur quelqu'un, si ça tombe sur toi, ah frère, tu es vraiment pécheur. Non, c'est pas moi, pasteur, c'était un hasard. Dieu envoie le précurseur. Pourquoi j'insiste autant? Dieu me dit, insiste. Pourquoi? Je dois atterrir. Le Saint-Esprit cherche des plateformes d'atterrissage, des vases, des temples, des maisons dans lesquelles il va atterrir. Et quand il va atterrir, frère, ta vie va devenir un véritable chef-d'œuvre. Dieu cherche ce qu'on appelle des agents, des vecteurs, des canaux pour manifester sa gloire. Pas à Brazzaville, non, mais partout où tu iras. Quand on te voit aller à Mukondo voir tes parents, on va dire, Dieu est à Mukondo. Mais où est Dieu? En elle, parce qu'elle brille, elle resplendit, elle est lumière, elle est sel, elle domine. Hey, quelqu'un me dit amen. Dieu te prépare. Oui, je sais. Il y a ton voisin qui dit, mais moi, je n'ai pas envie. Ce n'est pas grave. Il va passer par nous. Mais toi, tu vois seulement, oh, pourquoi seulement eux? Parce que pour l'instant, tu ne comprends pas encore de quoi je suis en train de parler. Mais quand la gloire va descendre, frère, tu vas dire, mais Seigneur, moi aussi, tu m'as oublié. Toi, s'il vient, ça va être pour te juger. Et j'ai dit que Dieu va exposer ce que tu fais en privé là. Il va te mettre sur la place publique. Il va te livrer en spectacle. Frère, quand Dieu te livre en spectacle, il fallait seulement te livrer toi-même. Quelqu'un me dit amen. Et le Saint-Esprit est venu 10 jours après l'ascension. 10 jours après, l'Esprit de Dieu est arrivé. Et nous avons vu que les disciples étaient conscients de la personne de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle encore le Saint-Esprit. C'est lui qui était le Seigneur de l'Église. Et c'est lui qui est toujours le Seigneur de l'Église. C'est lui qui dirige, c'est lui qui inspire, c'est lui qui commande. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est celui qui est en charge de continuer l'œuvre que Jésus a commencée quand il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait lui-même sa parole. Ce n'est pas moi qui dois confirmer sa parole, c'est lui qui confirme sa parole. Quelqu'un me dit amen. Et au travers des Écritures, cette personnalité qui est venue le jour de la Pentecôte, on l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de l'Éternel. On l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'Esprit de Christ. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de celui qui est dans le commencement, qui s'est incarné. On l'appelle aussi l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de la parole, l'Esprit de Christ. C'est pour dire que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. On l'appelle l'Esprit du Père parce que c'est par lui que tu peux adorer le Père. C'est par lui, c'est même par le Saint-Esprit que tu arrives à dire Père. C'est par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, quand tu pries Dieu, tu vas dire, oh, tu vas utiliser des noms compliqués. Éternel, il y en a qui ne savent pas dire Père. Mais quand le Saint-Esprit est là, c'est facile. Ça devient automatique pour toi de dire Père. Père, je t'adore. Père, je te célèbre. Père, je te rends gloire. Père, je t'aime. Père, mon papa, mon époux, papa. Et c'est par lui que tu arrives à dire mon époux, mon bien-aimé, mon Seigneur. C'est lui, l'esprit d'amour. Quelqu'un me dit Amen. On l'appelle l'esprit du Fils. On l'appelle l'esprit du Père. On l'appelle aussi l'esprit de gloire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu se manifeste par l'esprit de gloire, par le Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de grâce parce que la grâce est déversée par l'esprit de grâce. On l'appelle l'esprit de sainteté parce que la sainteté n'est possible que par l'esprit de sainteté qui est en toi. On l'appelle l'esprit de pureté. On l'appelle l'esprit d'amour. On l'appelle l'esprit de vérité. Qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi on l'appelle l'esprit de vérité? Ah, tu vas voir, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes est contrôlé par un homme qu'on appelle, un être qu'on appelle Satan. Son arme principale pour dominer le monde comme il fait, c'est le mensonge, c'est la ruse, c'est la tromperie. Quelqu'un me dit la tromperie. La ruse, le mensonge. Voilà pourquoi Jésus dit de lui qu'il est le père du mensonge et le menteur. C'est sa spécialité. Tout ce qu'il fait n'est que mensonge. Tout ce qu'il fait n'est que tromperie. Et il ne faut pas sous-estimer ses œuvres parce qu'il arrive à distiller, à répandre comme un poison son mensonge, ses mensonges sur toute la surface de la terre, dans les religions, dans les systèmes politiques et le pire dans les systèmes sociaux, éducationnels. Partout, il répand, il distille le mensonge. C'est son arme fatale et le mensonge est opère dans les ténèbres, dans l'ignorance. Voilà pourquoi, pour vivre dans un monde comme celui-là, il faut l'esprit de vérité. Parce que les gens sincères sont trompés. Tu n'es pas sauvé parce que tu es bon. Tu es sauvé parce que Dieu a eu grâce. Dieu a eu compassion de toi. Mais beaucoup d'autres ne sont pas encore sauvés alors qu'ils ont le bon cœur. Mais ils sont dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi le Saint-Esprit. Dis-moi le Saint-Esprit. Il est tout ce dont tu as besoin. Il est la personne la plus importante sur la terre. Que dire? À propos du Saint-Esprit, qui est-il? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'une des trois personnes de la Trinité. On dit généralement, c'est la troisième personne de la Trinité. Mais en réalité, il est simplement l'une des personnes de la Trinité. Le concept, le principe de la Trinité divine apparaît dès le commencement. Le Saint-Esprit, malheureusement, il est la personne la moins comprise de toute la Bible. Et la plus rejetée dans l'Église, et la plus rejetée dans le monde. Et j'ai compris, entre parenthèses, pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que Jésus était visible. Jésus, on peut le toucher. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le toucher. Voilà pourquoi il est aussi mal compris. Et on va voir dans quelques instants, il y a eu beaucoup d'erreurs autour de la personne du Saint-Esprit. Et c'est à cause du fait que l'Église ne le connaît pas, que l'Église l'a rejeté, que l'Église galère, l'Église souffre. L'Église est dans les ténèbres. Le sel n'a pas de saveur. La lumière n'éclaire pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas là. L'Esprit n'est pas honoré. Mais les disciples, eux, ils ont brillé, ils ont marqué leur époque, ils ont impacté leur monde parce qu'ils connaissaient le Saint-Esprit et ils marchaient avec le Saint-Esprit. Il est temps, ICC, de remettre le Saint-Esprit à sa place, c'est-à-dire le Seigneur de l'Église. Quelqu'un me dit Amen. La Bible elle-même appelle le Saint-Esprit Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit, en l'introduisant, Jésus parle de lui et il dit, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. » Quelqu'un me dit éternellement. Dis encore éternellement. Dit éternellement. Il ne demeure pas avec toi. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit quand tu es sur la terre dans le monde vivant. Non, tu es un esprit toi-même. Tu habites, tu as une âme et tu habites dans un corps. Actuellement, tu es dans un corps qu'on appelle un corps de terre. Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais demain, tu auras un corps ressuscité si tu es né de nouveau, si tu es sauvé. À la résurrection, tu auras un corps. Il ne sera pas fait de chair et de sang, mais il sera fait de chair. Tu auras un corps matériel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans ce corps-là, tu auras toujours besoin de l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que c'est toujours par l'Esprit de Dieu en toi que tu es en communion avec le Père. Dis-moi amen. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de communion avec Dieu. On va le voir après. Voilà pourquoi l'Esprit demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Il demeure avec vous et il dit, il sera en vous. Je vous donnerai, et plutôt, le Père vous donnera un autre consolateur. Dans le grec, c'est allos, c'est-à-dire un autre comme moi. C'est le contraire de hétéros. Hétéros veut dire, si je mangeais une pomme, donne-moi ta pomme, je te la redonnerai. Mais tu me donnes une pomme, je peux te donner de l'orange, kiwi, pamplemousse. Si tu mangeais une orange, je te dis, je te redonnerai, donne-moi ton orange, et je te redonnerai une orange, et non pas un autre fruit. Jésus dit, moi je m'en vais, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un paraclétos, exactement de la même nature que moi. De la même nature que moi. Quelqu'un me dit amen. Donc il parlait de quelqu'un qui était de nature divine, et il parlait d'une personnalité. Plus loin, avant son ascension, Matthieu 28, verset 19, il donne les instructions finales. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des chrétiens, comme a dit le pasteur Yvon la dernière fois. Dis-moi amen et je ferme la parenthèse. Il n'a pas dit d'aller faire des chrétiens. Il a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, des suiveurs de Christ, des imitateurs de Christ. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le grec, il faut faire attention aux mots. Il n'a pas dit les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Un seul nom, le Père, le Fils et l'Esprit. Ici, Jésus place clairement l'Esprit, son Esprit, au même rang que le Père et que le Fils. Il montre que l'Esprit a la même autorité, la même puissance, le même rang, la même gloire, la même majesté que le Père et le Fils. Mais c'est l'Esprit. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, et en terminant sa lettre aux Corinthiens, et l'apôtre Paul leur donne une recommandation, c'est comme un vœu, c'est une prière, un souhait. Il dit, vous les Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, « Vous, je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communication ou la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Et là, il vient de mettre encore en avant la Trinité de Dieu. Le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle de l'Esprit dans la marche du croyant, dans la marche de chaque enfant de Dieu. Le Père a sa place, le Fils a sa place, l'Esprit a sa place. Le Père manifeste l'amour. Le Père, c'est l'origine. Le Fils libère la grâce. Par le sang du pardon, la grâce a été libérée. S'il n'y a pas le Fils, il n'y a pas de grâce. Maintenant, il y a un Esprit. L'Esprit maintient la relation avec le Père et le Fils. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas possible de dire « Seigneur, je t'aime ». Impossible. Personne ne peut dire « Jésus, tu es mon Sauveur » sans le Saint-Esprit. Impossible. Quelqu'un me dit « Amen ». Il nous introduit la notion de la Trinité. Tu honores le Père, honores le Fils, honores l'Esprit. Parce que c'est le même rang. Quelqu'un me dit « Amen ». La première crise de l'église, dans l'église primitive, le premier décès enregistré dans l'église primitive, a eu lieu lorsque un homme appelé Ananias, qui était un homme riche, a menti aux apôtres parce qu'il a vendu un champ. Ils avaient décidé de faire une collecte, de vendre leur bien, de le mettre à disposition des pauvres. Cet homme, Ananias, vient et il vend son bien et il vient déclarer une valeur inférieure à la valeur originale. Alors Pierre lui dit dans Actes chapitre 5, verset 3, mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Au point que tu montes à qui? Et je dois vous dire une chose, Pierre aimait le Saint-Esprit. Pierre connaissait le Saint-Esprit. Pierre avait vécu avec Jésus. Pierre avait entendu Jésus leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pierre a expérimenté la personne du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre le trouillard, Pierre le peureux. Le jour où le Saint-Esprit est venu, Pierre dit, les gars, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens un courage en moi. Ce n'est pas moi. Oui, ce n'est pas toi. Le Saint-Esprit est rentré en toi. Et il se lève, il bondit. Homme, frère, ce n'est que 9h du matin, ces hommes ne sont pas ivres. Quel le courage que le gars avait. Il parlait avec une assurance, une audace. Repentez-vous. Pierre, c'est toi? Oui, c'est moi, mais c'est pas moi, les gars. Il y a quelqu'un en moi maintenant. Le Saint-Esprit est venu. Alors il dit Pierre. Donc Pierre aimait le Saint-Esprit. Oh, je vous dis, Pierre aimait la personne du Saint-Esprit. Il aimait l'Esprit de Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen. Et tu vois, ça irritait Pierre lorsque le gars est venu mentir. Et Pierre était rempli de l'Esprit. Pierre dit à Ananias, mais Ananias, tu n'as pas eu peur de venir mentir publiquement devant nous ici? Tu n'as pas peur? Comment as-tu osé mentir au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Pierre était scandalisé. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, Ananias, mais c'est à Dieu. Quelqu'un me dit, le Saint-Esprit est Dieu. Qu'est-ce qui nous montre encore que le Saint-Esprit est Dieu? La parole de l'Éternel dans l'Ancien Testament est identifiée à la parole du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Jérémie 31, par exemple, Dieu parle par Jérémie dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, longtemps, longtemps. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Après ces jours-là, dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Des années après, centaines d'années après, on retrouve dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 15. L'auteur du livre aux Hébreux dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Ici, il est en train de citer le passage de Jérémie 31 et il attribue les paroles de Jérémie 31 qui sont attribuées à l'Éternel. Il dit, ces paroles avaient été dites par le Saint-Esprit. Donc l'Éternel égale Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Dans le livre de Actes, on voit l'apôtre Paul dans la ville de Rome. En attendant son jugement, Paul fait asseoir tous les juifs de la ville de Rome, tous les anciens. Et il leur parle, il entretient avec eux. Et il leur annonce le message de l'évangile, le message de Jésus-Christ. Et alors qu'il est en train de parler aux anciens, aux juifs, il y a désaccord, il y a discorde, ils n'acceptent pas, certains n'acceptent pas le message de l'apôtre Paul. Alors Paul leur dit, comme au verset Actes 28, verset 25, il est dit, comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Paul rappelle un passage important de l'Ancien Testament. Il dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit, quelqu'un me dit le Saint-Esprit, parlons à vos pères, par le prophète Esaïe a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ici, Paul, l'apôtre Paul cite un passage très connu de Esaïe. Esaïe chapitre 6, où Esaïe voit la gloire de Dieu. Où Esaïe voit l'Éternel, le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplit toute la terre. Et Esaïe est terrifié par la vision qu'il voit. Et il entend la voix de Dieu. La voix, la Bible dit dans Esaïe 9, Dieu dit, qui enverrons-nous? Qui sera notre messager? Qui enverrons-nous? Et Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Et Dieu lui dit, maintenant, va vers ce peuple, dis-leur. Et donc ici, l'apôtre Paul reprend une grande, célèbre prophétie d'Esaïe qui était attribuée au Seigneur et dit, celui qui parlait, l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Répète après moi, l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Donc il est en train de dire que lorsque Dieu parlait, prophétisait par ses serviteurs, par ses prophètes, c'est le Saint-Esprit qui parlait par ses prophètes. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce qui montre que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit possède des attributs que seul Dieu peut posséder. Le Saint-Esprit est éternel. Hébreux 9, verset 14. Le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. Quelqu'un me dit, il connaît tout, ce qui est évident. Dieu connaît absolument toutes choses. Voilà pourquoi tout ce que tu fais là, il connaît. Dis-moi amen. Le Saint-Esprit est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois. Quand Jésus était sur terre, l'Esprit était en Jésus. Le Saint-Esprit était en Jésus seul. Ça, c'était terrible. Parce que toute la puissance qui a créé l'univers était bloquée dans un seul homme. C'est terrible. Mais la volonté de Père, c'était que Jésus s'en aille pour que l'Esprit vienne. Et nous sommes actuellement dans les jours de l'Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit, c'est tout. Le Saint-Esprit est présent partout. Le Saint-Esprit aussi, tout puissant. Quelqu'un me dit, il est tout puissant. C'est normal, il est la puissance même de Dieu. Il est la manifestation même de la puissance de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit, alors on peut dire que rien n'est impossible, que tout est possible. Un jour, une dame qu'on appelait Marie, lorsque Dieu voulait entrer dans le monde, lorsque Dieu voulait entrer sur la surface de la terre, dans le monde visible, Dieu cherchait une porte pour entrer dans le monde. Et la porte, c'était la Vierge, parce qu'il y avait déjà une prophétie qui avait été dite que la Vierge va enfanter. Alors Dieu cherchait une Vierge, parce que Dieu ne pouvait pas rentrer dans le monde. Pour faire rentrer le Christ dans le monde, il fallait que le Christ entre par la porte légale. Pour entrer dans l'autre monde, il faut rentrer par la porte. La porte légale, pour tout être humain, c'est la femme. Il doit rentrer par la femme. Il doit sortir comme tout le monde. Quelqu'un me dit Amen. Tout homme, toute personne qui naît humain doit entrer obligatoirement par la porte. Voilà pourquoi même les démons, quand ils veulent faire leurs œuvres, ils ont besoin de s'attacher à un être humain ou à un animal pour accomplir leurs œuvres. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout doit être attaché à un humain, un être humain. Et lorsque Dieu voulait rentrer dans le monde, Dieu cherchait la porte. Et il trouve la porte à travers une femme, naturellement. Alors, il vient voir, il se rend compte qu'il ne peut pas, Dieu ne peut pas rentrer dans le monde à travers Joseph. Joseph, comme tous les humains, comme tous les êtres humains, sont souillés. Depuis Adam, tout ce qui vient de Adam est souillé. Tous les êtres humains sont pécheurs. Or, Dieu qui doit naître là, doit naître sans péché. Pourquoi? Parce que l'agneau qui doit être immolé, le sang qui doit être versé, doit être le sang, doit être un sang non contaminé, un sang pur. Le sang de Dieu est pur. Le problème, c'est que tous les êtres humains sont impurs. Alors Dieu dit, je cherche la porte. Et quand il cherche la porte, il trouve une femme qu'on appelle Marie, qui est vierge. Il va voir Marie, il va voir Gabi. Gabi va voir Marie. Gabi dit à Marie, salut à toi, femme à qui une grâce a été accordée. Il dit, Kingai, oui, toi. Et dit, tu seras enceinte. Il dit, tu seras enceinte. Et le saint enfant qui va venir là, il sera appelé fils de Dieu. Tu l'appelleras un tel. Et puis Marie dit, ah bon, mais comment est-ce possible? C'est impossible, parce que moi, j'ai compris que tu ne veux pas que ce soit Joseph. D'accord, mais moi, il n'y a pas moyen. C'est impossible. Comment je fais? Il dit, justement. Et dans Luc chapitre 1, verset 35, il lui dit, toi et moi, on va faire un partenariat. Quelqu'un me dit un partenariat. On va faire un partenariat, toi et moi. Dieu et la femme vont faire un partenariat. Il lui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand il fallait faire l'impossible, il fallait maintenant le Saint-Esprit. Quand il fallait accomplir le miracle, il fallait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le partenariat c'est lequel? Dieu et la femme, par le Saint-Esprit, font une alliance. Le sperme est rentré par l'Esprit. L'Esprit a envoyé le sperme. Et maintenant, Marie se retrouve enceinte. Mais Joseph dit, ma petite, comment? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, écoute, on est bien, hein? Restons bien. Moi, je ne te connais pas. Tes parents t'ont emmené pour que je t'épouse. Tu dis que c'est le Saint-Esprit. Il dit, ma petite, pardon, prends tes affaires, quitte ma maison. Et la Bible dit, pendant qu'il la chassait, il voulait la chasser. Le soir, l'ange lui dit, petit, ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est moi, le boss, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit, le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. L'Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et le Fils. Majesté glorieuse, majesté divine, merveilleuse personne, merveilleuse personnalité. Quelqu'un me dit Amen. Que peut-on dire à propos du Saint-Esprit encore? Deuxième point, le Saint-Esprit est une personne. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Répète, le Saint-Esprit est une personne. Répète encore, le Saint-Esprit est une personne. c'est une personnalité. La personne la plus importante sur la terre. Quand tu t'es levé ce matin, tu t'es levé avec, à côté de toi et en toi et autour de toi. Il y avait une personne. Il y a une personne. Tu es assis, tu m'entends. Il y a une personne. Il faut comprendre comment tu es, toi, ô humain. Un être humain est un esprit qui possède une âme, qui habite dans un corps. Le corps est la maison dans laquelle toi, esprit, tu habites. Et à l'intérieur de la maison, il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. Qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Il est en toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui est uni au Seigneur est avec lui un même esprit. Il y a toi et le Saint-Esprit, c'est un. Mais tu es un esprit. Mais vous avez fusionné. Il est venu habiter en toi. Tout ce que tu fais l'affecte. Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter en toi. Le problème des humains, c'est que nous ne comprenons pas que nous sommes comme une maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette pièce est une maison. Tu es exactement comme cette pièce. Mon frère, tu es exactement comme cette pièce aux quatre murs. Tu es une maison. Et au centre de la maison, il y a Dieu qui est avec toi, ton esprit. Et vous habitez ensemble dans une pièce, dans le corps. Ça, c'est le corps. Voilà pourquoi Dieu peut habiter dans une maison, mais ne pas être seul à habiter dans la maison. Voilà pourquoi dans la maison, il peut y avoir Dieu, le Saint-Esprit, et il peut aussi y avoir d'autres esprits dans la même maison dans laquelle nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui ouvre la porte aux autres? C'est toi. Qui ferme la porte aux autres? C'est toi aussi. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est plus puissant que toutes les armées du monde, toutes les armées de l'univers. Pourquoi? Il est le patron, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est lui. Il a plus de puissance, plus de sagesse que tout ce que tu peux imaginer. Le Saint-Esprit est plus puissant que le G20, le G7, le G12, le G8, tous les gouvernements rassemblés, humains, inhumains. Le Saint-Esprit est incomparable, il est redoutable. Il a plus de connaissances, de sagesse que tous les livres que tu peux lire, que toutes les encyclopédies, que tous les dictionnaires, que toutes les bibliothèques, les librairies. Le Saint-Esprit a une connaissance illimitée. Il connaît toutes choses du commencement à la fin, d'éternité en éternité. Il est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Et figure-toi, c'est une personne, une personnalité. Imagine, mon frère, imagine. Voilà pourquoi quand le Père dit, vous les humains, vous êtes têtus, vous ne m'écoutez pas. Le Père dit, vous ne m'écoutez pas. Je vous dis que le don le plus précieux que vous puissiez avoir, vous humains, c'est mon esprit. Toi, tu dis, non, Seigneur, donne pas l'esprit, donne-moi le job. Fais ça comme au Bali. Bakala. Moi, si. Kento. L'argent. Mbongo. Il te dit, je te donne le Saint-Esprit. Non, donne-moi seulement l'argent. L'argent me suffit. Oh. Imagine, tu es avec quelqu'un. Tu as un problème, il t'avertit. Tu as une solution, il apporte la réponse. Tu as une question, il te donne la réponse. Tu as une solution, il t'apporte le problème. Tu as une entreprise, il te faut faire combien de chiffres d'affaires l'année? Il me faut faire 100 millions. On est à 20 millions. Il te dit, calme-toi. Je te dis comment on va faire pour atteindre les 100 millions. Tu dis, associé, comment on fait? Fais telle chose, marketing, stratégique, marketing, communication. Bah! Pendant que les gens qui ont fait PhD de marketing, là, ils ne comprennent pas. Lui, il te dit, pousse seulement le pion là. Tu es poussé, tu as fait 120 millions. Oh, comment tu as fait? Imagine le partenaire idéal, l'ami idéal, celui qui a des réponses à toutes les questions. Aucun problème ne le dépasse. Rien ne le surprend. Il a connaissance sur tout. Il te dit, dans 10 ans, à la même heure, regarde ce qui va t'arriver. Tu dis, mais comment tu sais ça? Il dit, parce que je suis avec toi dans le temps, mais moi je viens de l'éternité. Je suis dans l'éternité. Je suis en toi, mais je suis dans l'éternité. Le temps n'est qu'une parenthèse de l'éternité. Dans 20 ans, dans 100 ans, dans 700 ans, la Vierge enfantera. Mais comment tu sais? Parce que mon fils, je suis dans l'éternité. Toi, tu es dans le temps. Moi, je suis dans l'éternité. Je sais tout. Dans 2000 ans, comment tu sais qu'il ira dans le lac de feu? Parce que j'ai tout programmé. Je suis l'Éternel. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis-moi le Saint-Esprit. Donc toi, Dieu te dit, je viens habiter en toi et je deviens ton Dieu et ton papa, et ton conseiller, et ton ami. Tout ce que tu veux, je le te donne. Je te le donne. Toi, tu cherches seulement l'argent. Tu cherches seulement la voiture. Tu cherches seulement la maison ou le mari. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi, le Saint-Esprit est une personne. Le jour où tu vas commencer à être conscient, et c'est ça le but de l'école du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes, c'est de t'emmener à être conscient. Quand tu vas te lever, bonjour Saint-Esprit. Et tu vas commencer à parler tout seul dans la maison. Mais en fait, tu ne parles pas seul. Tu parles à ton ami. Tu parles à ton Seigneur. Tu parles à ton associé. Tu parles. On va y arriver. Dis-moi amen. Et ta vie va radicalement changer. Parce que la première des choses, c'est de reconnaître sa présence. La pire des choses, quand on vit avec quelqu'un, quand on est marié, c'est de ne pas reconnaître qu'on est marié. Donc imagine, le gars, il est marié. On vous a dit, je vous proclame mari et femme. Sophie et Georges, embrassez-vous. Et puis le lendemain matin, quand il se réveille, Georges se lève. Sophie aussi, c'est pas de son côté. Tu, même pas bonjour, tu vas où? Mais vous êtes mariés depuis hier. Comment? On est quoi? Hein? Mais c'est ton mari! Mais c'est ta femme. Ah bon? Bonjour mon mari, bonjour ma femme, ça va? Exactement ce que toi tu fais avec le Saint-Esprit. Est-ce que je peux continuer? Mais le temps vient où tu vas commencer à être conscient de ça et il va commencer à se manifester à toi. Quand tu te lèveras le matin, bonjour Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Esprit de Jésus, Esprit du Père, Esprit du Dieu vivant, tu es mon bien-aimé. Je t'adore, je te remercie. Seigneur, et glorifie Jésus dans ma vie aujourd'hui. Révèle-moi encore le Père, révèle-moi encore Jésus. Est-ce que tu sais que, on va le voir, si le Saint-Esprit n'avait pas été là, personne n'aurait compris la croix. Personne n'aurait compris ce qui s'est passé à la croix. Personne, personne, personne. Pierre avait fui, tout le monde le regardait de loin. Jean avait fui, Marie, Marthe, toutes les femmes étaient là. Oh pitié, oh, il est mort, il est en train de souffrir. Femme de Jérusalem, pleurez sous vous-même. Et on pleure sur toi aussi. Personne n'avait compris ce qui se passait le jour de la crucifixion. Quand Jésus le Christ était sur la croix. Personne. Personne. Aucun apôtre, aucun disciple, aucun prophète. Personne n'avait compris. Qui a révélé cela? Le Saint-Esprit. À qui? À quelqu'un qui n'était même pas là ce jour-là. Hey, on va parler de ça. Dis-moi le Saint-Esprit. Il a parlé à Paul. Il a révélé à Paul le mystère de l'échange divin. C'est par Paul que le Saint-Esprit a révélé la prophétie d'Ésaïe. C'est lui qui met comme un puzzle. Oh, quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Dis-moi Saint-Esprit, je te veux. En introduisant le Saint-Esprit, Jésus parlait d'une personne. Il faut que j'avance. Il parlait d'une personne, mais d'une personne invisible. Mais une personne qui est invisible à l'œil nu, mais qui est réelle. Dis-moi, il est réel. Dis-moi, il est réel. Jésus faisait référence dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Quelqu'un me dit consolateur. Dis-moi consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus faisait référence à une personnalité, une personne invisible et non pas à une chose matérielle. Il ne faisait pas référence à la matérialité, mais il faisait référence à une personnalité. Personnalité et matérialité sont totalement différentes. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, il n'est pas un feu. Oui, il brûle comme un feu, mais il n'est pas un feu. Il n'est pas un vent. Il peut aller aussi vite que le vent, mais il n'est pas un vent. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une influence. Il influence, il le pousse, il inspire, mais c'est une personne derrière. Dis-moi amen. Et c'est ce verset, Jean 14, verset 16, qui a créé beaucoup de contradictions dans le monde des croyants. Jean 14, verset 16, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et ce verset a créé la pagaille dans le monde, notamment dans une religion qu'on appelle l'islam. Parce que ce mot, un autre consolateur, ça vient du mot grec parakletos.
Mais vois-tu, mon frère, ma soeur, parce qu'il faut comprendre, quand on parle du Paracletos, il y a eu beaucoup de choses qui ont été introduites. L'islam, le fondateur de l'islam, est un prophète qu'on appelle Muhammad, ou encore Hamad, ou encore Mahomet. Et Mahomet est né 440 ans après Jésus-Christ. Et les musulmans, qui sont des gens charmants, extraordinaires, merveilleux, mais les musulmans s'appuient sur le Coran pour affirmer que le verset de Jean 14, verset 16, est une prophétie qui annonce la venue de Muhammad, ou encore la venue de Mohammed, de Hamad. Et il faut comprendre, chrétien, ce que la parole de Dieu a à dire à ce sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit que ce verset a été l'objet de beaucoup de controverses et de malentendus et d'incompréhensions. Et Satan est un homme extrêmement rusé. Est-ce que je peux continuer? Les musulmans s'appuient sur le Coran, sur deux sourates. La sourate 61:6 et la sourate 7:157. Que dit la prophétie que l'on trouve dans le Coran? Qu'est-ce qui est dit? Une prophétie. Le Coran dit que l'évangile et la Torah annoncent l'arrivée de Hamad, qu'on appelle pour eux le consolateur. Donc ils ont dit, le consolateur dont parle la Bible, c'est Mohammed. Et du coup, il y a beaucoup d'incompréhension entre les chrétiens et les musulmans, parce que les musulmans disent non, le mot traduit en grec parakletos, en fait, ce n'est pas le mot parakletos, c'est périclitos qui veut dire le glorieux, le loué, le très loué. Est-ce que quelqu'un me suit? Deux prophéties dans le Coran annoncent l'arrivée. Plutôt, deux prophéties dans le Coran parlent, renvoient dans les références bibliques. Premier passage, sourate 7, on va lire le Coran, s'il vous plaît. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Non, parce que étant donné que le Coran cite la Bible, il faut donc que la Bible aussi annonce l'arrivée de Mohammed. Parce que le Coran a été fondé, a été écrit par Mohammed, soi-disant envoyé par Dieu. Mohammed dit, Jésus a parlé de moi. Mohammed dit, Jésus a parlé de moi. Et les musulmans les plus érudits disent, attention, écoutez, allez sur YouTube, vous allez voir. Il y a des éminents professeurs, des musulmans qui disent, attention, nous ne sommes pas contre Jésus. Parce que Jésus a annoncé l'arrivée de Mohammed. Jean chapitre 14, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et les chrétiens, vous avez changé le mot parakletos. Au lieu de parakletos, en fait c'est périclitos. Il annonçait, il dit, vous avez enlevé les trois voyelles. Ah bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La sourate 7, verset 105, la sourate 7, 157, il dit, ceux-là qui suivent le messager, le prophète gentil, qui trouve en toutes lettres chez eux, dans la Torah et dans l'évangile. Ceux-là qui suivent le messager, le prophète gentil qu'ils trouvent en toutes lettres chez eux dans la Torah et dans l'évangile. L'autre sourate, 16, plutôt 61, 6. Et quand Jésus, il cite Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment un messager de Dieu à vous, confirmateur de ce qu'il y a devant moi de par la Torah et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera le très glorieux, ou encore Hamad, ou encore Mohammed, ou encore le Périclitos. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, cette sourate, c'est une prophétie que l'on trouve dans le Coran, qui annonce l'arrivée. Il renvoie donc à l'évangile, dans le livre de Matthieu, et dans le livre de Jean. Il renvoie à Jean en disant, ce dont Jésus parlait, le consolateur, c'est moi. Et toutes les incompréhensions qui séparent les chrétiens des musulmans viennent donc de la manière dont on prononce le mot parakletos. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui a créé un bon musulman, un vrai musulman, va vous dire que le Coran annonce, plutôt la Bible annonce l'arrivée de notre prophète. Voilà pourquoi ils sont fiers de dire, non mais vous ne lisez pas vos textes. Nous, Jésus a parlé de Mohammed. Et le problème, c'est que quand on lit tous les manuscrits en langue grecque, aucun manuscrit, sur les 70 manuscrits du Nouveau Testament, aucun manuscrit, ni dans le Torah, et ni dans les évangiles, ne parle de l'arrivée
d'un prétendu Ahmad, Muhammad. Aucun. Aucun. Quelqu'un me dit aucun. Le mot périclitos n'existe pas dans la Bible. Aucun. Aucune fois, dans aucun manuscrit, on trouve le mot périclitos. Mais on trouve le mot paraclétos. Mais ce n'est pas tout. Qui est donc ce paraclétos dont Jésus parle? Parce qu'à partir de ce mot paraclétos, il y a aussi des églises ici, même en Afrique, qui ont créé des mouvements. Je ne préfère pas donner le nom. Notre saint homme là, c'est de lui que Jésus... Beaucoup de mouvements croyants, beaucoup de mouvements spirituels sont nés à partir de ce verset. Notre prophète, notre papa, c'est de lui que Jésus parlait. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de troupes, beaucoup de fidèles. Ils croient que Jésus avait parlé de leur papa là, qui est le maître fondateur de leur religion ou de leur église. Est-ce que quelqu'un me suit? L'islam, comme d'autres mouvements, est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? Que dit la parole? La parole dit simplement que, premièrement, le paraclétos, quelqu'un me dit le paraclétos, n'est pas un être humain. Le paraclétos n'est pas un être humain. Jésus dit, Jean 14, verset 16, il demeure éternellement avec vous. Un être humain ne vit pas éternellement. Il dit, l'esprit de vérité, un être humain est distinct d'un esprit. Quelqu'un me dit amen. Il dit, le monde ne le voit pas, un être humain est visible. Le monde ne le connaît pas, un être humain est forcément connu de quelqu'un. Il dit, il sera en vous. Il dit, un être humain ne peut pas être à l'intérieur d'un autre être humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en plus, Jésus spécifie clairement que le paraclétos dont on parle, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas lu la suite du verset, les pauvres. Et la plupart des gens qui ont abusé ne connaissent pas, ils n'ont pas pris le temps de lire au moins la suite de la parole. Il dit l'esprit de vérité. Le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Quelqu'un me dit l'esprit de vérité. Je bénis Dieu de ce que Jésus a précisé lui-même, l'esprit de vérité. Il ne parlait pas d'un être humain. Il a introduit une personnalité qui est un esprit. Et il dit, ce paraclétos a une mission, manifester, glorifier, exalter Jésus de Nazareth, le Christ. Donc, logiquement, un bon musulman doit être un bon disciple de Jésus-Christ. Si c'était vrai, alors le bon musulman allait exalter Jésus tous les jours. Puisque le paraclétos dont on parle exalte, élève, glorifie, célèbre, aime Jésus le Christ. Et il ne jurerait que par Jésus le Christ. Cherchez donc l'erreur. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sont sincères et dans l'erreur. Parce qu'on n'aura pas tout dit. Est-ce que je peux continuer? Jésus, en parlant du paraclétos, faisait donc référence à une personne invisible. Dis-moi une personne invisible. Voilà pourquoi il dit dans Jean 15, verset 26, quand le consolateur, le paraclétos dont il parle, que je vous enverrai de la part du Père, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, virgule, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça, on en reparlera dans quelques temps. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Beaucoup, c'est terrible, comment le diable a trompé tellement de gens. Il a trompé tellement de croyants. Les gens sont sincères, ils cherchent Dieu et ils sont trompés. Chacun est venu dire, je suis le consolateur que Jésus a annoncé. Je suis un tel, je suis Muhammad, je suis un tel. Et ils ont été séduits. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a introduit une personne invisible. Et comme toute personne, ce qui fait qu'une personne est une personne, ce qui fait qu'une personnalité est une personnalité, c'est sa capacité, premièrement, de s'exprimer, de communiquer, de parler. Le Saint-Esprit aussi parle. Dans Actes 8, verset 29, la Bible dit, je passe les détails, le Saint-Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Qui dit à Philippe, avance, approche-toi du char, le Saint-Esprit. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui a dit, mettez-moi à part? Donc, l'Esprit parle. Bien sûr que l'Esprit parle. Les esprits parlent. Dis-moi, amen. Le Saint-Esprit parle. Dans 1 Timothée 4, verset 1. l'apôtre Paul dit, mais le Saint-Esprit ou encore l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Et ça, ça a été écrit il y a environ 2000 ans. Ça, 2000 ans, Paul disait déjà que le Saint-Esprit est en train de me dire, écoutez, hein, au temps de Paul, donc il y a déjà presque 2000 ans, Paul recevait, le Saint-Esprit lui dit, Paul, dans 2000 ans, tu dis, dans combien d'années? Tu veux dire 10 ans, 2 ans, 2000 ans, les croyants vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des esprits méchants qui vont les séduire et à des enseignements qui sont inspirés par des démons, des esprits démoniaques. Qui, donc, autrement dit, les démons aussi enseignent, oui. Les démons sont des spécialistes des doctrines. Ils enseignent des vérités, soi-disant, qui sont des mensonges. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme toute personne, le Saint-Esprit lui enseigne. Dans Jean 14, verset 26, Jésus dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. » On en reparlera ça. « Il vous enseignera toutes choses. » C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est lui qui est le Seigneur de l'Église. Des fois, moi, je suis là, je ne... Comment voulez-vous que ce qu'on enseigne ici, dimanche après dimanche, on l'enseigne par l'intelligence et les capacités du pasteur? C'est impensable. Comment voulez-vous que pendant toute une année, on reste sur trois thèmes et puis à chaque semaine, pendant 5 mois, on ne parle que d'un seul thème? C'est impensable, c'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Le Saint-Esprit enseigne. Il te dit, parle de ça, assieds-toi, parle de ça. C'est quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut continuer? Comme toute personne, j'ai dit le Saint-Esprit est une personne. Et comme toute personne, le Saint-Esprit est une volonté. C'est Dieu, il a sa volonté. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur de leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les appelle à une œuvre, dit le Saint-Esprit. Je les appelle. Yves, je t'appelle. Il y a 2 ans, en 2012, en octobre, je crois, 2012, j'étais dans ma chambre. Je ne voulais pas prendre la charge de l'Église. Je ne voulais pas assumer la fonction pastorale de l'Église. Le Seigneur m'a parlé en octobre, je me rappelle, en octobre, fin octobre 2012. Il m'a blâmé. Il dit, je ne t'ai pas appelé au Congo pour les fonctions que tu as seulement aujourd'hui. Fais un choix. Tu dois me servir. Je dis, hey, je pensais qu'un DG, c'était la solution. Je t'ai appelé à faire mon travail. Je dis, hey, Seigneur. Il dit, tu m'as désobéi. Je dis, hey, Ngaï, maman, oh, Yahweh, Yahweh. Il m'a blâmé dans ma chambre, octobre 2012. Il me blâmait comme un enfant. Et de toute façon, je suis son enfant. Il dit, je t'ai entendu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux t'aimer. Il dit, ma gloire ne se manifeste pas dans ta chambre seule. Ma gloire se manifeste au milieu de mon peuple. Sors, occupe-toi de mon peuple. Il m'a blâmé. Je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur. Oh, Nzambe, tue-moi seulement. Parce que je l'avais attristé. Je l'avais blessé. Et ça fait, en fait, ça faisait longtemps qu'il me parlait, mais je n'écoutais pas. Je disais, non, mais moi, si je suis pasteur là, après, on va encore me tirer dessus. Parce qu'il m'avait déjà dit, hein, toi, on va beaucoup te salir. Il dit, mais Seigneur, toi, tu me dis une chose pareille. Est-ce que tu penses que je vais être content? Qui a envie d'être sali? Nous tous, on a un nom. Hein. Nous aussi, on a des émotions. Qui a envie d'être sali tout le temps, critiqué, insulté, alors qu'il n'a rien fait? Toi? Personne. Mais il te dit, on va t'insulter beaucoup, prépare-toi. Il dit, Seigneur, je pense que j'ai une autre solution. Hein. Je vais pouvoir rester à la maison. Et puis je disais, mais Seigneur, quand on va m'insulter, les âmes peuvent être ébranlées, leur foi peut être détruite. À cause de moi, les âmes vont périr. Il disait, ce sont mes âmes, mon peuple, mon église, mes enfants. Je sais comment en prendre soin. Toi, va faire mon travail. Le Saint-Esprit a une volonté, il m'a parlé dans la chambre. Et je pleurais. Après, j'ai appelé, je crois, la soeur Raïssa. J'ai dit, Raïssa, Dieu m'a parlé, il m'a blâmé. Après, j'ai appelé la pianiste. J'ai dit, les gars, Dieu m'a blâmé. Il dit, non, chef, nous, on savait. Hein. Il dit, oh, c'est ça. Et toi, là, je vais te mettre une gifle, toi aussi, d'ailleurs. Quelqu'un me dit, amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit parle. Il exprime sa volonté. Mais ce qui est terrible, c'est que si j'avais désobéi jusqu'à ce jour. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Ça aurait été une tragédie. Donc, on peut désobéir au Saint-Esprit. On va voir ça après. Est-ce que je peux continuer? Pour terminer, comme toute personne, le Saint-Esprit a des émotions. Quand on parle des émotions, on parle des émotions. La joie, la tristesse, la foi. La foi! Quelqu'un me dit la foi. La foi est une émotion. L'enthousiasme, c'est une émotion. Le courage, c'est une émotion. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit, Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Répète après moi, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit, tu peux l'attrister. Et c'est ce que beaucoup font, sciemment et inconsciemment, volontairement et involontairement. Et c'est très, très grave. Pourquoi? On va le voir. Parce que le Saint-Esprit a une particularité. C'est qu'il est d'une douceur, voilà pourquoi on le compare à une colombe. Il est d'une douceur qui peut te déconcerter. Le Saint-Esprit a une douceur incompréhensible. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Il ne supporte pas la souillure. Il ne supporte pas la désobéissance. Mais il est d'une patience qui dépasse tout entendement. Il est d'un amour que personne ne peut expliquer, ne peut même comprendre, ne peut imaginer. Il dit, ne l'attriste pas. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire du bien. Oui ou non? Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc on peut l'attrister, on va voir après. On peut le vexer, l'insulter. Les conséquences sont... Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, dit Paul, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Je vous exhorte, frères, par le Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit qui est en moi. Je vous exhorte, dit Paul, à combattre. Paul dit, je vous en supplie, si vous aimez l'Esprit comme moi, combattez avec moi. Par la grâce de Jésus notre Seigneur et par l'amour de l'Esprit qui est en moi, si vous aimez le Saint-Esprit, combattez avec moi. Adressez des prières en ma faveur. Oh, quelqu'un dit Amen. Il parle de l'amour de l'Esprit. C'est une émotion. L'amour est une émotion. Le Saint-Esprit a des émotions. Il sait quand tu l'aimes. Il sait quand tu ne l'aimes pas. Il sait quand tu le révères. Il sait quand tu ne le révères pas. Il sait quand tu le valorises. Il sait quand tu ne le valorises pas. Le Saint-Esprit est une personne qui est venue habiter avec toi. Quand tu rentreras à la maison, tu es avec le Saint-Esprit. Il habite en toi. Donc c'est comme si on prenait tout le bâtiment de Diata et puis on le déplaçait. Il est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit a des émotions. Et il faut savoir ressentir ce qu'il ressent. Un jour, les disciples, après avoir été envoyés par Jésus en mission, deux à deux, les disciples sont revenus de leur mission. Ils ont dit, Seigneur, c'est pas possible. Les démons nous sont soumis en ton nom. On a chassé les démons qui nous tourmentaient depuis longtemps. On les a chassés. Esprit de mort sort. Ils résistent. Puis après, ils sortent. Oh, je sors, ok. Il dit, waouh. Il dit, Seigneur. Ils faisaient des rapports au Seigneur. Seigneur, c'est merveilleux, tu te rends compte, pour la première fois, mais c'est incroyable, c'est du jamais vu. Et on va le voir après, effectivement, c'était du jamais vu. Des démons, des esprits démoniaques qui affligent, qui oppressent, qui détruisent les corps, commençaient maintenant à obéir à des êtres humains. Jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Comment un esprit démoniaque qui a terrassé les humains depuis tellement longtemps, depuis que le monde est monde, depuis le péché d'Adam, commence maintenant à être soumis à des êtres humains. Les disciples disent, Seigneur, c'est merveilleux. Puis pendant qu'ils sont en train de faire leur rapport, ils sont dans la joie, Jésus leur dit, c'est bien, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ça, c'est petit et c'est normal. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que la famille de papa est en train de s'agrandir. Parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie de l'agneau. Réjouissez-vous, parce que le Père est dans la joie lorsqu'il voit que la famille s'agrandit, que d'autres deviennent des croyants. Quelqu'un me dit amen. Et puis la Bible lit Luc chapitre 10, verset 21. Et à ce même moment, après qu'il voit que la famille de Dieu est en train de s'agrandir, les âmes sont en train d'être libérées, les âmes sont guéries, les gens commencent à croire à Jésus comme étant le Christ, le Messie. Et la Bible dit à ce moment-là, Jésus tressaillit de joie, part. Il tressaillit de joie, part. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bon, en réalité, ce que je viens de faire, ce n'est pas ce que Jésus a fait à ce moment-là. La Bible dit Jésus tressaillit de joie. Vous voyez, il y a des mots en français qu'on utilise comme ça là qui ne veulent rien dire. Tressaillit de joie. Ça veut dire quoi tressaillir? Je tressaillis de joie. Je tressaillis de joie. Ça veut rien dire. Le mot grec c'est agalio, liao, agalio. Et ce mot agalio veut dire exulter. Ça veut dire se réjouir fortement. Le mot tressaillir de joie veut dire être pas heureux, mais être extrêmement heureux. Frère, imagine que tu cherchais un grand marché et tu as des projets, et puis on te dit, tu viens d'avoir un marché de 1 milliard, payant, content. Tu vas dire, cool, super, bonne nouvelle, gloire à Dieu. Ou bien tu vas dire, ah bon? Oh, merci Seigneur. Ok. Oh, moi je t'adresse le marché en question. Ou bien tu vas dire, quoi? Un marché d'un milliard? Yeah! Yeah! Et la Bible dit, dans le contexte actuel, Jésus, par le Saint-Esprit en lui, en fait, Jésus, l'Esprit de Dieu était en Jésus, oui ou non? Et l'Esprit de Dieu a poussé une émotion. Et Jésus a dit, yes! Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il n'était pas en train de dire, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que tu as caché? Oh, tu entends, Pierre? Ces choses aux sages et aux intelligents. Il dit, je te loue, Père. Qu'est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents? Je te loue. Quel est mon point? Le Saint-Esprit a des émotions. Donc, des fois, tu sais, quand tu es en train de chanter, quand tu es en train d'écouter un chant, tu dis, hey, c'est le Saint-Esprit en toi qui te pousse. Tu sens la joie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et même des fois, même quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, et puis toi tu dis amen, il y a plusieurs personnes qui disent amen, amen. Et puis il y en a, tu vois, la parole te touche tellement. Ce n'est pas toi, mais celui qui est en toi, là, l'esprit, il dit yes. Puis tu dis amen. L'autre, il a entendu la même parole. L'autre, il dit amen. Amen, amen, amen. Mais toi, la parole t'as tellement touché. C'est un réma, c'est une révélation personnelle. Et l'esprit en toi te dit, saisis la parole, tu dis, yes, amen. Là, c'est par le Saint-Esprit que tu exprimes une émotion. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, tu ne te rends pas compte, mais des fois, quand tu adores notamment, voilà pourquoi quand quelqu'un adore, moi quand j'adore, faut même pas me suivre. Moi, je ne vous observe pas, hein, parce que moi, quand je me mets à adorer, j'avoue, c'est l'esprit en moi qui prend le dessus. Donc, des fois, je suis là et je ne me contrôle plus. Je sens seulement. Et c'est par le Saint-Esprit qui est en toi que tu peux commencer à dire, Père, je déclare que je t'aime. Pendant qu'on chante, il y en a qui vont dire, Père, je déclare que je t'aime. Et puis il y en a d'autres, c'est comme si tu n'es plus là. Tu es là, mais tu n'es plus là. Les yeux fermés, les mains levées. Si on te dit, ne lève pas les mains, tu as dit non, je dois lever mes mains, excuse-moi voisin. Des fois même tu t'écartes pour dire, Père, je déclare que je t'aime. Là c'est l'esprit qui est maintenant connecté, qui est en train d'adorer. Je déclare mon amour profond pour Père, je... Là, tu vois, que je t'aime. Là, c'est l'esprit qui est en train de parler. Et là, tu sens dans ton cœur un amour qui monte. Et tu sens dans ton cœur un amour qui est en train de monter pour le Père. Un amour qui te fait adorer le Père. Père, je déclare que je t'aime, que je t'aime. Tendre Père,
là c'est l'esprit qui est en train de prendre la place. Il exprime l'émotion qu'on appelle l'amour. L'esprit manifeste par toi l'amour. Il exprime pas. Personne ne peut aimer Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit.
Père, je déclare que je t'aime, tendre Père. Tendre Père. Quelques instants que je t'aime, laisse couler l'amour, laisse exprimer l'amour de l'esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu es capable d'aimer le Père. C'est par le Saint-Esprit que tu es capable de dire Père, je déclare. Mais le je t'aime est déclaré par le Saint-Esprit en toi.
Saint-Esprit de Dieu, c'est par toi que je révère, c'est par toi que j'adore.